Punky va vous causer. Punky va vous parler.
Yo, ça va vous? Bah moi ça va, parce que bah apparemment Yuji Naka est en prison maintenant. Quelle excellente nouvelle! Bon, blague à part, avant de commencer, il faut absolument que je vous dise que cet épisode et les précédents sont disponibles en format audio, au format podcast, sur vos applications préférées, donc n'hésitez pas à aller vous abonner si vous préférez m'écouter plutôt que me regarder. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien écouter ça en faisant autre chose, donc bah n'hésitez pas, c'est fait pour. Et au passage, j'en profite pour dire que je prépare aussi un podcast spécialement pour les Patreons, mais je mettrai sans doute le premier épisode en accès libre sur ce flux aussi, donc deuxième bonne raison d'aller y faire un tour. Et puis pour ceux qui savent pas, vous pouvez me retrouver évidemment comme d'habitude dans les podcasts de la case rétro. Voilà, on a fini avec les podcasts, mais si vous aimez les podcasts, je fais des podcasts.
Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt?
Alors comme vous l'avez vu avec la miniature et le titre, nous allons parler aujourd'hui d'Indiana Jones, qui est une série de films que, bon, moi j'apprécie, mais pas particulièrement. Bon, j'aime bien, hein, évidemment, c'est super cool Indiana Jones, mais bon, si vous me demandez, je préfère Benjamin Gates, quoi. Mais par contre, j'ai une affection pour les jeux vidéo Indiana Jones. Il y en a eu d'ailleurs pas mal tout au long des années, hein, plus ou moins bon selon les périodes. D'ailleurs, je recommande les vidéos de Mea sur le sujet, hein, je pense qu'on n'a pas fait mieux sur le YouTube français, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de la 3D, Indiana Jones, côté jeux vidéo, il s'est fait un peu évincer par Tomb Raider. En fait, quand Lara Croft est arrivée, elle est devenue un petit peu l'équivalent vidéoludique d'Indiana Jones, donc du coup, peut-être qu'il avait moins sa place à ce moment-là sur le média. Des jeux continuaient à sortir, hein, mais ils n'avaient pas énormément de promos et surtout, ils n'avaient pas énormément de budget, hein, c'était surtout de l'exploitation de licence. Jusqu'à ce jour de juin 2006, à l'E3 très précisément, et d'ailleurs retenez bien cette date, l'E3 2006, parce que ça va être un petit peu le point de pivot de notre histoire du jour, où il va se passer un petit événement en soi. Un jeu Indiana Jones va être annoncé, et puis on n'en entendra plus jamais vraiment parler. Alors installez-vous bien au fond de votre fauteuil, lâchez votre souris ou lâchez votre téléphone, parce que je vais vous raconter l'histoire d'Indiana Jones et de son jeu vidéo perdu. Bon, alors en 2006, les jeux vidéo Indiana Jones, c'était pas trop ça. Et LucasArts a toujours préféré investir dans Star Wars et d'autres licences à eux, mais pas trop sur Indiana Jones. Faut dire qu'Indiana Jones, c'est une licence qui est assez vieille, hein, même à l'époque de la PS2, c'est pas ringard, mais presque. Mais tout de même, LucasArts va quand même sortir un jeu sur PS2, sans doute pour coller à cette espèce de petite mode qu'il y avait à l'époque, de faire des remakes vidéoludiques de vieux films des années 70 et 80. On avait eu The Warriors, Scarface, on peut aussi citer le James Bond, Bon Baiser de Russie, qui est ressorti aussi à cette époque-là. Et je pense que ce premier jeu PS2, hein, Indiana Jones et le tombeau de l'Empereur, c'était un produit qui était fait pour rentrer dans cette espèce de phénomène. Malheureusement, LucasArts va pas forcément avoir totalement confiance en son produit, et on sent bien que le jeu a des années de retard sur ce qui se faisait à l'époque, notamment en termes de plateforme, puisque Prince of Persia et les Sables du Temps étaient sortis et qu'il avait un petit peu révolutionné la formule. Alors pourquoi d'un coup, à l'E3 2006, LucasArts va annoncer un nouveau jeu Indiana Jones? Déjà, il faut se rappeler que la génération 360 PS3, c'était un petit peu la course au réalisme. Souvenez-vous, hein, c'était l'époque où les éditeurs voulaient les jeux les plus gris et marrons possibles, et ça je pense que c'est la faute de quelques jeux, mais surtout d'un en particulier, Grand Theft Auto 4. GTA 4, il a apporté cette dose de réalisme sur les consoles HD, mais il a aussi apporté un moteur avec lui, un moteur physique qui s'appelle Euphoria. Alors petite précision, quand je dis qu'il amène avec lui le moteur Euphoria, en fait c'est pas Rockstar qui l'a créé, hein, c'est quelque chose qui existait déjà avant, mais qui a commencé à être implémenté dans les différents moteurs de jeu qui étaient utilisés dans l'industrie. Et forcément, début 2006, quand les premières annonces autour de GTA 4 arrivent, et que Rockstar dit à qui veut bien l'entendre qu'il utilisera Euphoria pour tous ses prochains jeux, l'industrie du jeu vidéo tout entière sent le vent tourner, et forcément ça va être la course à l'utilisation de cette nouvelle technologie. Surtout que toutes les nouvelles avancées technologiques apportées par Euphoria, elles promettent d'amener dans nos jeux une dimension beaucoup plus réaliste, et ça a l'air ridicule maintenant, mais mine de rien à l'époque, bah ces avancées elles ont permis d'avoir un rendu au fur et à mesure qui était de plus en plus cinématographique. Et c'est pour ça que dès 2005, quand on a commencé à entrevoir ce qu'allait être la génération de consoles HD, LucasArts va mettre en chantier ce jeu Indiana Jones, qui est prévu pour être annoncé à l'E3 2006 sur toutes les plateformes, et sortir donc en 2007. Quand il est annoncé à l'E3 2006, bah en fait ça fait déjà un an qu'ils sont en train de bosser sur ce blockbuster. C'est un jeu ambitieux, qui devait d'ailleurs utiliser le fameux moteur Euphoria, et il faut savoir que LucasArts, aux côtés de Rockstar évidemment, ils vont faire partie des premiers à annoncer l'utilisation de cette nouvelle technologie pour leur jeu. Et depuis un an, en fait, ils sont en train de se débattre, mais en voyant les premières images, la presse et le public réagissent positivement, surtout que personne ne s'y attendait, puisque généralement LucasArts préfère utiliser Star Wars pour ses démonstrations de force. Et rappelle qu'à l'époque, Indiana Jones 4 n'avait même pas encore été annoncé. Mais pourtant, les communicants de LucasArts ne cessent de répéter que c'est la licence la plus adaptée à leurs toutes nouvelles ambitions sur cette nouvelle génération de consoles. Ce qui démontre, s'il fallait encore le démontrer, qu'avec ce trailer d'Indiana Jones à l'E3 2006, eh ben il devait être sacrément sur deux. Après cette E3, on va en apprendre progressivement un petit peu plus sur le jeu. Dans cette aventure, Indiana Jones va partir à la recherche du bâton de Moïse, un bâton magique qui permettrait de séparer la mer en deux, ou de faire plein d'autres trucs très utiles, comme par exemple transformer l'eau du Nil en sang. Super, l'eau c'est du sang, bah ok, qu'est-ce que j'en fous maintenant, je sais pas. Le jeu devait se passer en 1939, donc juste après la dernière croisade, ce qui en faisait l'aventure d'Indiana Jones la plus avancée chronologiquement parlant, et on apprend très vite que la version principale du jeu, la version Xbox 360 et PS3 sera développé en interne par LucasArts. L'équipe de LucasArts qui est dédiée au jeu, elle ne manque pas d'ambition, avec des idées de mécanique de jeu très élaborées, notamment tout un gameplay au fouet, on devait pouvoir utiliser le fouet pour détruire des objets, les attirer vers nous, sauter au-dessus du vide, mais aussi dans les combats, puisqu'il y avait un système de combat, du combat à main nue avec des décors destructibles, mais aussi des gunfights. Carrément, ils étaient en train de négocier pour que Harrison Ford prête sa voix à Indiana Jones pour le jeu, et ils voulaient aussi que John Williams leur compose des compos exclusives pour leur jeu. Et rien qu'en entendant parler les devs, on sent l'amour qu'ils ont pour la saga, c'est vraiment des fans. Et donc je pense qu'il y avait carrément de quoi faire un excellent jeu. Malheureusement pour eux, comme j'ai dit un peu plus tôt, la première année elle va être compliquée. Et ils vont se retrouver devant toute une série de challenges techniques qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Le moteur Euphoria va leur poser beaucoup de problèmes par exemple. Ils n'ont pas vraiment de soucis pour l'utiliser, mais c'est quand il s'agit de l'optimiser pour le multi-support que ça devient une vraie galère. Et du coup ils vont passer un temps incommensurable à se concentrer sur la production value du jeu, c'est-à-dire peaufiner tout ce qui va se voir au premier coup d'œil et tout ce qui va servir à la campagne marketing du jeu. Ils vont donc se mettre à charbonner sur les animations d'Indiana Jones quand il est en combat, mais aussi sur tout le moteur de destruction du jeu, parce qu'ils ont bien compris que ces explosions et ces décors qui se détruisent, c'est ce qui les rapproche le plus d'une expérience réellement cinématographique. Et en soi, le fait qu'ils veulent que leur jeu se rapproche le plus possible des films, c'est plutôt positif. Mais le seul problème, c'est qu'ils sont pas tout seuls dans cette course. Alors on va un peu parler de l'ambiance en backstage de ce fameux E3 2006 où a été diffusé ce premier trailer pour Indiana Jones HD. Faut dire que l'équipe qui s'occupe du jeu, elle est excitée comme une puce, et elle est très fière de ce qu'ils ont pu accomplir en un an malgré le retard et les complications techniques. Sur ce trailer, on voit clairement la note d'intention, c'est-à-dire créer un jeu d'action qui soit le digne successeur de ce qu'était Tomb Raider qui venait d'être rebooté à l'époque. Et même si moi j'aime beaucoup cette trilogie Tomb Raider, faut dire que quand Tomb Raider Legend est sorti à l'époque, il avait été accueilli plutôt tiédement. Et encore une fois, je pense qu'il faisait pâle figure à côté de Prince of Persia et Sable du Temps. Clairement, ce Prince of Persia, il a bouleversé le petit univers des jeux d'action, aventure, puzzle en 3D, et malheureusement, Tomb Raider Legend a beaucoup souffert de la comparaison à l'époque. Du coup, à cette E3 2006, l'équipe derrière le jeu indie, ils savent qu'ils tiennent un truc. Et d'ailleurs, ils vont avoir très vite confirmation de cette tendance, et surtout du trône libre qui reste encore à prendre. Puisqu'à cette E3 2006, eh bien, d'autres jeux du style vont être annoncés. Comme par exemple le reboot de Alone in the Dark, qui joue carrément sur ce style un peu acrobatique, et aussi sur beaucoup d'autres phénomènes qui étaient à la mode à l'époque, beaucoup trop. Mais surtout, il y a le trailer d'un certain Uncharted qui sort de nulle part et qui lui aussi est prévu pour 2007. Alors au début ils se font pas trop de soucis parce que le premier trailer d'Uncharted montrait pas grand chose. Et d'ailleurs Nathan Drake n'avait pas encore toute la panoplie d'aventuriers comme sur le jeu final. Malgré tout je pense qu'il y a quand même un petit peu de déni à ce moment là de la part de l'équipe chez LucasArts qui s'occupait du jeu indie, parce que clairement quand le premier trailer d'Uncharted est sorti, on a tous compris la même chose, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est clairement là pour remplacer Tomb Raider. Bon, ils se consolent quand même en se disant que c'est une exclusivité PlayStation 3 et que leur jeu à eux, qui est multi-support, aura plus de chances de toucher un plus large public. On n'oublie pas non plus qu'ils ont la licence Indiana Jones et le visage d'Harrison Ford, ce qui était quand même un peu plus vendeur que l'autre bonhomme là qui ressemble à Johnny Knoxville. Et puis surtout, à ce moment-là, dans l'équipe d'Indiana Jones, ils ont tous le regard braqué vers une autre licence qui pourrait les faire courir à leur perte. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit que c'était bizarre que LucasArts ait choisi Indiana Jones et pas Star Wars pour leur arrivée sur Next Gen? Bon bah je pense que certains portefeuilles de chez LucasArts se sont dit exactement pareil. Donc retour à l'E3 2006, hein, notre féerie dansante des sirènes à nous. L'annonce du jeu Indiana Jones a fait couler beaucoup d'encre. C'est vrai que l'idée a l'air alléchante, et puis Tomb Raider étant en vraie recherche d'identité à ce moment-là, bah il y avait une vraie demande de la part du public. Mais ce qui a fait moins couler d'encre à ce moment-là, c'est l'annonce, en catimini par LucasArts, d'un nouveau jeu Star Wars pour la nouvelle génération de consoles. Et quand je dis en catimini, autant vous dire que le truc a pas été vraiment annoncé. Il a juste été montré à quelques journalistes en behind closed door, comme on appelle ça, c'est-à-dire dans une petite salle à part des autres journalistes, sans caméra, sans appareil photo, dans le plus grand des secrets. Du coup, la news fait pas beaucoup parler d'elle. Surtout qu'à ce moment-là de l'histoire du jeu vidéo, des jeux Star Wars, il en sort tous les ans, donc c'est pas une nouvelle exceptionnelle. Du coup, même si quelques journalistes relaient la news, personne ne prête vraiment attention à cette annonce. Sauf, comme je vous l'ai dit, les membres de l'équipe d'Indy qui, eux, sont bien au courant que ce projet existe. D'ailleurs, ils savent très bien que c'est un projet qui est tout aussi ambitieux que le leur, voire même plus ambitieux encore que le jeu Indiana Jones qu'ils viennent tout juste de présenter. Ce jeu Star Wars, il utilisera aussi le moteur Euphoria, et d'ailleurs, tout le moteur physique est basé sur Euphoria et la destruction de décors. Ce jeu Star Wars, vous le connaissez, c'est le pouvoir de la force, qui a été mis à peu près en chantier au même moment que le jeu Indiana Jones dont on parle. Et pendant que la team Indiana Jones est en galère, comme on l'a expliqué depuis le début de cette vidéo, bah il faut savoir que le projet Star Wars, lui, il avance et il devient de plus en plus convaincant. Et quand il va falloir solidifier les équipes, LucasArts va envoyer tous les renforts vers le jeu Star Wars, laissant l'équipe d'Indiana Jones clairement dans des sables mouvants. C'est une situation dont ils savent qu'ils ne sortiront jamais et dans laquelle ils vont s'embourber jusqu'au cou. Et Star Wars, le pouvoir de la force, qui était donc prévu pour 2007, sortira en 2007. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est un jeu que j'aime plutôt bien. C'est un beat'em all un peu répétitif, hein, avec un scénario assez convenu, mais j'avoue que j'aime bien l'acteur qui joue l'apprenti. C'est un acteur que j'ai connu dans The Mist, l'adaptation de Stephen King par Frank Darabont. D'ailleurs, l'acteur, quand il a tourné dans The Mist, il savait qu'il allait incarner un personnage de Star Wars qui tenait son sabre à l'envers, et donc dans le film, il fait une petite référence en retournant son couteau avant de l'utiliser. Je trouve ça vraiment mignon, parce que le gars, c'est un gros nerd, c'était pas du tout prévu à la base, et il a été gentiment demandé au réalisateur s'il pouvait le caser. Et Darabont, il a sans doute trouvé ça stylé, donc il a dit ok. Pour finir sur le pouvoir de la force, un jour je vous parlerai des sous-versions de ce jeu, les versions PS2, Wii, DS, PSP, parce qu'il y a énormément de choses à dire, et dans le lot, il y a des versions que j'apprécie beaucoup. Donc surveillez vos abonnements, parce qu'un jour, il y a forcément une vidéo sur le sujet qui va sortir, parce que je trouve que ça mérite qu'on s'y attarde. Après, de toute manière, peu importe la version, le jeu Star Wars, le pouvoir de la force, il attire les foules. Vraiment, il se vend très bien. Le moteur physique, il fait son boulot d'argument de vente imparable, et les critiques dans la presse ou les joueurs sont généralement plutôt positives, donc le jeu se vend à merveille. Par contre, du côté du jeu Indiana Jones, c'est bah toujours aucun signal radio. Les rares fois où on les interroge sur le sujet, bah les gens de LucasArts disent que le jeu est pas annulé et que les équipes travaillent toujours dessus. On les entend dire que le projet avance et que d'ailleurs il est très prometteur. En même temps, en ce moment-là, les projecteurs sont tournés vers Star Wars, on annonce une suite pour le pouvoir de la force, et d'ailleurs le début du tournage d'Indiana Jones 4 en film vient à peine d'être annoncé. Et là, on se dit que LucasArts attend peut-être la sortie du film pour sortir son jeu Indiana Jones Next Gen. D'ailleurs, au niveau des grands ponts de LucasArts, la sortie de Force Unleashed et son succès, bah ça rassure tout le monde. En interne, ce jeu indie, il est officiellement décalé, sans deadline, et l'équipe qui développe le jeu se dit qu'ils vont donner le tout pour le tout, surtout ils se disent qu'ils vont pouvoir avancer plus vite grâce aux avancées faites sur le moteur de Star Wars. C'est l'occasion donc de redoubler d'ambition, et ils se disent qu'ils vont inventer des mécaniques vraiment novatrices, parce que selon leur dire, ce qu'ils veulent réellement, c'est pas seulement faire une bonne adaptation, mais aussi carrément renouveler tout le genre du jeu d'action plateforme. Et honnêtement, je pense que tout aurait pu se passer comme sur des roulettes. Mais malheureusement, un événement va venir sceller le destin de ce jeu Indiana Jones. Nous sommes en novembre 2007, et ce jour-là, tous les employés de LucasArts qui travaillent sur le jeu Indiana Jones arrivent au travail le matin avec un petit quelque chose sous le bras. Ce petit quelque chose, c'est la boîte du tout premier Uncharted qui vient de sortir à ce moment-là. Faut dire qu'entre l'E3 2006 et sa sortie en novembre 2007, Uncharted, il a pris un sacré coup de hype. Y compris au sein de l'équipe du jeu qui développe Indiana Jones. Faut dire que Uncharted était de plus en plus attendu depuis le dernier trailer diffusé à l'E3 2007, quelques mois avant la sortie du jeu. Sûrement parce que ce trailer met clairement l'emphase sur le côté aventure cinématographique d'Uncharted. Ce qui le rapproche évidemment beaucoup plus de l'image qu'on se fait d'Indiana Jones. Qu'on parle des petits carnets d'explorateurs au chara-design clairement plus cinégénique, des énigmes de chercheurs de trésors au punchline de Nathan Drake, et surtout de l'action non-stop lorsqu'on parle des fusillades, des poursuites et des acrobaties. Et avec les nonono de Nathan Drake, on comprend tout de suite que Sony est en train de faire son Indiana Jones moderne, histoire d'enterrer Lara Croft définitivement. Mais c'est vraiment le jour de la sortie du jeu, lorsque toute l'équipe du jeu Indiana Jones a pu mettre les mains sur Nathan Drake pour la première fois, que petit à petit, un gros malaise a commencé à s'installer.
Quand Uncharted est sorti, on a directement acheté un exemplaire. Je me souviens quand on a lancé le jeu au bureau avec les collègues, tout le monde était comme « Oh merde, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire !»
Il faut bien le dire, ils sont visiblement face à un jeu qui coche toutes les cases du jeu qu'ils sont en train de développer eux-mêmes. Qu'on parle de sa date de sortie, hein, qui je le rappelle était la période où devait sortir ce jeu Indiana Jones, mais aussi dans les idées, hein, qui étaient pour la plupart mieux réalisées dans Uncharted que sur le jeu que l'équipe était en train de développer. Et dans l'équipe, personne ne se fait d'illusions. Tout le monde sait que d'une minute à l'autre, leurs supérieurs vont débarquer pour leur dire de tout arrêter. Mais pourtant, chez LucasArts, côté communication, on maintient, le jeu finira bien par sortir. Et c'est pas tout à fait faux, puisque Indiana Jones et le Sceptre des Rois, c'est son nom, va bien finir par sortir. Alors le moteur de jeu, c'est pas le seul point commun que ce jeu Indiana Jones partageait avec Star Wars Le Pouvoir de la Force. Et tout à l'heure j'ai évoqué les sous-versions de Star Wars, hein, donc des versions allégées pour les consoles non HD, mais il faut savoir que LucasArts avait aussi commandé une version allégée pour son Indiana Jones AAA, une version pour la Wii, la PS2 et la PSP, qui sera développée par Artificial Mind and Movement, qu'on va appeler A2M, pour aller plus vite parce que sinon on n'a pas fini. A2M, c'est des habitués du jeu à licence qui ont même fait quelques bons jeux, comme par exemple le jeu Monstres et compagnie, ou encore Time Busters. Et depuis l'époque PS1, ils font quasi que du jeu de commande. Et c'est d'ailleurs parce que c'est des vétérans dans ce type de développement que LucasArts les a appelés pour faire la version low-res de leur gros projet. Et comme c'est souvent le cas dans ce genre de projet, et bah simplement on fait deux projets jumeaux. C'est-à-dire que le jeu va s'appuyer sur le même script, les mêmes storyboards, les mêmes décors, les mêmes niveaux, et parfois ça arrive les mêmes assets. C'est deux projets qui vont très peu communiquer entre eux, mais qui vont utiliser les mêmes informations et les mêmes documents de travail. Tout ça dans le but d'arriver à deux expériences plus ou moins équivalentes pour les deux types de plateformes. C'est donc ce qui s'est passé chez A2M pour le développement de cette version Wii, PS2 et PSP, dont le développement a commencé à peu près en même temps que celui de la version HD. Et justement, on pourrait se dire que le retard de cette version principale, elle aurait pu ralentir le développement de la version allégée chez A2M. Et non, pas du tout, justement, parce que la pré-production, elle est terminée, et que A2M, ils ont tout ce qu'il faut pour continuer, c'est-à-dire le script, les décors, etc. Et donc, ils vont continuer tranquillement à développer leur jeu en suivant le script à la lettre. Et ils vont même avoir quelques mois supplémentaires pour peaufiner le jeu en plus de ça, le temps que la version principale en HD soit terminée, est prête à sortir. Mais bon, il y a un autre problème, c'est que chez LucasArts, toutes leurs fenêtres de sortie, elles se sont refermées depuis le temps. Le film Indiana Jones 4 est sorti, Uncharted est sorti, on annonce plus ou moins que Tomb Raider va se faire rebooter, et une suite au Pouvoir de la Force est déjà en chantier. Bref, il n'y a plus du tout de place pour un AAA de cette envergure, et il est donc décidé que Indiana Jones et le Sceptre des Rois ne sortira jamais. Sur Xbox 360 et PS3. Parce que oui, hein, le jeu il est toujours pas annulé par LucasArts qui continue de clamer que ça va sortir. Alors que pourtant à l'époque ils étaient déjà connus pour annuler des jeux à l'appel et tuer des studios. D'ailleurs à la même époque, ils vont faire annuler la trilogie Rogue Squadron qui devait ressortir sur la Wii, alors que le projet était déjà super avancé. Une annulation qui va obliger Factor 5 à fermer ses portes. Alors Factor 5, il s'était déjà bien saboté tout seul avec l'air, mais très clairement, LucasArts était bien au courant que pour Factor 5, c'était le projet de la dernière chance. Alors du coup, quand on entend LucasArts nous dire que le jeu Indiana Jones va quand même sortir alors que tous les devs ont arrêté de bosser dessus, on se dit qu'il y a quand même une arnaque. Et pourtant, Indiana Jones et le Sceptre des Rois va bien sortir à l'été 2009 dans l'indifférence la plus totale. Et alors, il y a plusieurs bonnes raisons à ça. Bon, déjà, Déjà, le jeu avait été montré en 2006 et annoncé pour 2007, donc de l'eau a coulé sous les ponts. En plus de ça, le jeu va sortir un an après la sortie du film Indiana Jones 4, qui entre-temps est devenu la risée d'internet. Et puis surtout, bah, c'est les versions PSP, Wii et PS2 qui vont sortir, et seulement celle-là. Autant vous dire que c'est comme s'ils avaient jeté le jeu en l'air pour voir ce qui se passe, en espérant qu'elle retombe juste comme une crêpe sans faire de bruit. Alors c'est pas la honte non plus, hein, parce que cette sous-version, en fait, elle est très correcte. Et en vrai, je dirais même qu'elle est pas si mal. Déjà, c'était l'occasion de découvrir le scénario du jeu, qui en fait est vraiment sympa, avec des séquences vraiment dans l'esprit des films. Et même en termes de gameplay, c'est pas transcendant, mais c'est tout à fait correct pour les consoles sur lesquelles il est sorti. Et même la version Wii, avec ses coups de fouet à la Wiimote, elle s'en sort vraiment pas mal. Le système de combat, il est plutôt bien trouvé, même s'il est un peu répétitif. Il y a des phases de tir, mais bon, c'est un peu le jeu qui choisit quand est-ce que vous tirez ou quand est-ce que vous tirez pas. Bah oui, hein, vous attendez pas à un full TPS non plus. D'ailleurs, le jeu, il est très linéaire, hein, on est un peu sur rail, c'est un peu un roller coaster, on va pas se mentir. Mais pour le coup, moi, je l'avais découvert à l'époque sur PSP, et je dois avouer que j'avais plutôt kiffé. Alors c'est pas Uncharted non plus, mais justement, il est sur des consoles où Uncharted n'avait pas vraiment d'équivalent. En dehors peut-être de la première trilogie de reboot de Tomb Raider. Et d'ailleurs je vous le dis, hein, même face à ce reboot, le jeu Indiana Jones il fait pas le poids. Il y a que sur PSP où il regagne vraiment un petit peu d'intérêt, parce que le jeu est découpé en épisodes, donc sur une petite partie comme ça c'est très sympa. Mais les versions PS2 et Wii, désolé de le dire, elles font quand même un peu tiède. Le seul vrai avantage de ces versions consoles de salon, c'est le mode coop qui a été offert en bonus. Ouais, il y a carrément une campagne exclusive à faire en coop qui est vraiment très sympa. Encore une fois, c'est très linéaire, très roller coaster, mais ça marche très bien si vous voulez passer une après-midi à deux devant la télé. Et que vous êtes fan d'Indiana Jones, évidemment. Voilà, c'est pas transcendant, mais ça a le mérite d'exister. Mais surtout, ça nous permet d'imaginer un petit peu mieux ce qu'aurait pu donner un jeu Indiana Jones à gros budget sur les consoles HD. Et je suis très curieux de savoir ce que va donner le prochain jeu Indiana Jones maintenant que la série Uncharted est terminée. Et pour finir, une petite surprise pour les plus fous d'entre vous, ceux qui possèdent le jeu Indiana Jones et le Sceptre des Rois chez eux, et plus particulièrement la version Wii. Si vous l'avez, lancez-le, allez sur le menu principal et maintenez le bouton Z du Nunchuk. Puis toujours en maintenant le bouton Z, vous allez faire la combinaison de touches suivante. A vers le haut, vers le haut, B vers le bas et vers le bas, gauche, droite, gauche et B. Et voilà, félicitations, vous avez débloqué Indiana Jones and the Fate of Atlantis, soit un des meilleurs jeux Indiana Jones que vous pouvez finir entièrement sur votre Wii. Ne me remerciez pas parce que bah, j'ai trouvé dans la Bible des tips.